tact de charité extérieure. La prudence intervient pour la bienfaisance. La prudence intervient pour l'aumône. Je ne peux pas toujours faire la bienfaisance. Au bout d'un certain temps, j'aurai plus rien du tout. Je ne peux pas donner tout mon temps impunément à quelqu'un qui en a besoin. Et il y en a un autre qui j'ai mis aussi à côté, ou plus exactement, qui ne dit rien, et qui en a encore beaucoup plus besoin. Oui, la prudence intervient pour mesurer mes actes extérieurs de charité. Alors, troisième objection. Supporter le pécheur est un acte de charité. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est la loi de charité. Corriger le pécheur, c'est-à-dire faire le contraire que le supporter, ne peut donc pas être un acte de charité. Et c'est vrai, ça on voit très très bien. En corrigeant votre frère, vous vous soulagez. C'est bien évident, vous vous soulagez. Si vous étiez plus parfait, vous supporteriez encore. J'en peux plus, il faut à tout prix lui dire. Hein. Je l'ai supporté pendant 6 mois, maintenant, non, c'est, il doit... Alors, vous voyez, la correction fraternelle vient tout simplement la supporte de sûreté. La correction fraternelle n'est pas opposée au support des faibles, dont elle est plutôt la conséquence. Ça, c'est très habile de la part du théologien. C'est saint Thomas qui dit ça. Hein. C'est très, très, très joli, ça. Correctio fraterna non opponitur supportationi infirmorum sed magis ex ea consequitur. En effet, on supporte un pécheur d'autant mieux qu'on est patient avec lui et qu'on lui veut du bien. Et c'est à cause de cela qu'on s'efforce de le rendre meilleur. Donc, comprenons bien, hein, supporter les fautes du péché, supporter les fautes de son voisin. La petite Thérèse qui supporte sa voisine qui traficote toujours avec son rosaire. Pendant toute l'oraison, agite son rosaire. C'est assommant, c'est effrayant. Donc elle supporte. Supporter un voisin qui se mouche d'une manière telle que tout le monde est agité par ce genre. On attend, n'est-ce pas, l'éternuement matinal. On attend. Alors on le supporte. Et ça exerce la patience. Et alors, la patience, c'est la force dans l'amour. Et la force dans l'amour nous permet de corriger. Vous voyez, alors comment il y a un lien entre les deux. C'est très très beau ça. C'est très très beau. La patience nous fait supporter dans le silence. On supporte dans le silence. Et puis tout d'un coup, on se dit non, ce sera plus efficace de lui dire. Parce que j'ai beau garder le silence, ça ne corrige pas. Et c'est vrai que ça ne corrige pas quand on supporte. Alors au bout d'un certain temps, non, il faut qu'il y en ait un qui ait le courage de lui dire. Alors à ce moment-là, on prend son courage de lui dire faites attention, vous ne voyez pas que c'est dur à supporter, faites attention. Alors on le dit avec la plus grande charité possible, à travers la patience. Et donc la correction fraternelle n'est pas en opposition avec le supportantes, le fait de se supporter dans la patience. Ça provient au contraire de cela. Vous voyez, ça, c'est un moment particulier. Hein. C'est très curieux. Ce n'est pas n'importe quel moment. Je crois que la première chose, c'est d'abord de se supporter. Puis au bout d'un certain temps, quand on s'est supporté dans la patience, oui, c'est ce que je vous avais dit à propos de la correction fraternelle que Jésus fait quand il prend le fouet. C'est une correction fraternelle. Jésus, de 12 ans à 30 ans, a supporté ça dans le silence. Et quand il a commencé sa vie publique, il a fait la correction fraternelle. Donc il y a eu un moment où il devait faire la correction fraternelle. Ça, c'est très important. Mais au fond, avant, il avait supporté ça, il n'avait rien dit. Vous direz quand il faut t'arrêter. Il faut arrêter un petit break maintenant? Oui. Avant de regarder l'article second, la correction fraternelle est-elle d'obligation? Discernement entre les deux. La revendication n'est pas la charité fraternelle, n'est pas la correction fraternelle. Alors la correction fraternelle, c'est quelque chose de très spécial. Et facilement, quelquefois, on dira, non, moi, je ne veux pas. Jamais je ne corrigerai, je porterai indéfiniment et je ne corrigerai pas. Alors, est-elle d'obligation ?
Octobre 1984, deuxième conférence.
À l'impossible, l'objection. À l'impossible, nul n'est tenu. Le prétendre serait un blasphème. Maudit celui qui dit que Dieu commande l'impossible. Or, il est écrit, regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Tous les commandements de Dieu se ramènent à ceux du décalogue, dans aucun desquels on aperçoit la correction fraternelle. Si elle était ordonnée par Dieu, son omission serait un péché mortel qui ne se rencontrerait pas, comme le dit cependant saint Augustin, chez des personnes qui mènent une vie plus parfaite et qui s'abstiennent de reprendre les autres. Ce qui les arrête, c'est plutôt une certaine cupidité que la discrétion de la charité. On voit très bien la difficulté, on y reviendra. Je vois tout de suite maintenant le 7 contre 1. Si tu négliges de corriger le pécheur, tu deviens pire que lui. Par le fait de l'omission du précepte. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant parce que c'est des questions, c'est vraiment des paroles de l'Écriture et d'autres paroles de l'Écriture qui nous mettent devant cette situation. Est-ce que vraiment on doit exercer la correction fraternelle? C'est pas si commode que ça. Alors, voici la réponse de saint Thomas. La correction fraternelle est d'obligation. Respondit Chandum, correction fraterna, cadit sub precepto. J'ai mieux le latin, c'est mieux dit. Cadit, hein, ça tombe sous le précepte. Mais il faut se rendre compte que ce sont les actes mauvais que les préceptes négatifs défendent et les actes vertueux que les préceptes affirmatifs commandent. Or, les actes mauvais sont tels en eux-mêmes et ne peuvent devenir jamais bons en aucun temps et en aucun lieu, étant essentiellement reliés à une fin mauvaise. C'est pourquoi les préceptes négatifs obligent toujours et à chaque instant. Au contraire, les actes vertueux ne doivent pas être faits n'importe comment, mais eu égard à toutes les circonstances requises pour que l'acte soit vraiment vertueux, à savoir qu'il soit fait où il faut, et quand il faut, et comme il faut. Ça, c'est toutes les circonstances de l'acte vertueux que saint Thomas reprend ici. Mais comme les moyens doivent être disposés en vue d'atteindre la fin, les circonstances de l'acte doivent l'être aussi de façon à réaliser le bien, qui est l'objet de la vertu. Dès lors, en négligeant une circonstance, si l'on supprime totalement ce bien, on manque à l'obligation. Si l'on empêche seulement la réalisation parfaite de ce bien, on n'y manque pas. C'est ce que dit Aristote. S'arrêter un peu, s'écarter un peu du juste milieu, cela n'empêche pas la vertu. Mais s'en écarter beaucoup, c'est faire un acte qui n'est plus vertueux. La correction fraternelle est destinée à l'amendement d'un frère. Elle est donc d'obligation dans la mesure où elle est nécessaire à cette fin. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille reprendre le coupable n'importe quand et n'importe où. C'est ça qui est important à voir. Autrement dit, saint Thomas souligne combien l'aspect prudentiel est important quand il s'agit de l'exercice de la correction fraternelle. La correction fraternelle est obligatoire, mais attention quand. Remarquez que c'est vrai pour tout acte extérieur. Mais c'est particulièrement vrai pour cet acte de la correction fraternelle. Autrement dit, le poids de la prudence est plus grand dans la correction fraternelle que pour beaucoup d'autres actes extérieurs. Et on comprend. Enfin, c'est les relations personnelles. Alors, la réponse de saint Thomas aux objections, je la vois tout de suite. Première objection, n'est-ce pas, qui montrait que le point de vue de la correction fraternelle est quelque chose d'impossible, puisqu'il est dit « Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qui la courbait. » Réponse. Toutes les fois qu'il s'agit d'un bien à faire, l'agir humain n'est efficace qu'avec le secours divin. L'homme doit cependant faire son possible, comme nous ignorons qui est prédestiné et qui ne l'est pas. Nos sentiments de charité doivent être tels que nous voulions le salut de tous. Donc, nous devons aussi rendre à tous le service de la correction fraternelle, en escomptant l'aide de Dieu. Bien évident. Si j'étais sûr que tel n'est pas prédestiné, je serais exempt de la correction fraternelle. Mais comme je ne peux jamais savoir qui est prédestiné, qui ne l'est pas, je dois considérer tous les hommes comme étant prédestinés. Ça, c'est la conduite prudentielle. Je dois considérer tous les hommes comme étant prédestinés. Donc, lorsque je peux aider quelqu'un, voyant qu'il est fragile dans tel ou tel domaine, je dois le faire. Alors, seconde objection, tous les commandements de Dieu se ramènent à ceux du décalogue, hein, nous l'avions vu. Réponse. Comme on l'a dit, tous les commandements qui ont pour objet un certain bien à faire au prochain se ramènent à celui d'honorer son père et ses pères et sa mère. C'est père et mère. Donc, honorer père et mère, vous voyez, c'est quand même très curieux, hein, de ramener le procès de la correction fraternelle au commandement d'honorer son père et sa mère. J'aurais pas trouvé ça tout seul. Vous non plus. Sûrement pas. C'est assez joli, du reste. Hein, c'est assez joli comme manière de voir. Hein, tous les commandements qui ont pour objet un certain bien à faire au prochain, les commandements qui se ramènent à certains biens se ramènent à celui d'honorer ses pères et mères. Et le premier qui assume tout le reste. Honorer père et mère, c'est par rapport à faire un certain bien au prochain. C'est ce qu'est de plus parfait, ce qu'est de plus grand, c'est d'honorer ses parents. Alors, honorer ses parents, donc, sont le maxime étalé dans l'ordre d'un bien à faire au prochain. Or, La correction fraternelle, c'est un bien faire au prochain, donc ça dépend de cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit corriger ses parents, vous voyez, c'est pas, ne faites pas ça. Vous voyez bien le tournant que donne saint Thomas. Troisièmement, n'est-ce pas ? Si elle était ordonnée par Dieu, son omission serait un péché mortel qui ne se rencontrerait pas, comme le dit cependant saint Augustin, chez des personnes qui mènent une vie plus parfaite. Alors, réponse de saint Thomas. La correction fraternelle peut donner lieu à trois omissions. Ça, c'est très important. Premièrement, la première est méritoire. C'est celle qui provient de la charité. Si l'on omet de reprendre et de corriger ceux qui font mal, soit qu'on attende un moment plus favorable, soit qu'on craigne qu'ils n'en deviennent plus mauvais, ou bien encore de peur qu'ils ne détournent les faibles de la piété et de la vertu, et que par leur violence, ils ne les éloignent de la foi. Ce n'est plus instinct de cupidité, mais c'est une charité prudente. Oui, c'est important, ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne supporte plus rien du tout, dans un état de fragilité, un état de faiblesse tel qu'il ne supporte plus rien du tout. Tout devient du vinaigre. Tout devient quelque chose d'effrayant. Ça existe, ça. Il faut le reconnaître. Psychologiquement, ça existe. Déjà qu'ils sont dans un état... Alors, à ce moment-là, voyez ce que dit saint Thomas. Charité prudente. On nomme. Ce sont des états extrêmes. C'est pas commode du tout. Hein. Mais... C'est plus par cupidité, c'est tout simplement parce qu'ils avaient affaire à une telle fragilité que tout ce que vous direz, au point de vue de la conviction, ça fera... Ce sera pire que mieux. C'est pas commode à mesurer, hein, vous voyez. C'est même très difficile à mesurer. Mais c'est reconnu. Si l'on omet de reprendre et de corriger ceux qui font mal, soit qu'on attend d'un moment plus favorable, soit qu'on craigne qu'ils n'en deviennent plus mauvais, ou bien encore de peur qu'ils ne détournent les faibles de la piété et de la vertu, et que par leur violence, ils ne les éloignent de la foi. Ce n'est plus instinct de cupidité, mais c'est une charité prudente. Donc très délicat, mais ça existe. Il y a des cas extrêmes, où l'omission de la charité fraternelle devient de la charité. Et une charité prudente. La seconde est un péché mortel. C'est celle qui est causée par la crainte des jugements des hommes, des tourments et de la mort de la chair. Quand cette crainte va jusqu'à l'emporter sur la charité fraternelle, le cas semble se présenter lorsque, malgré un espoir fondé de ramener un pécheur, on se laisse arrêter par des motifs tout humains de crainte ou de convoitise. Mais si Jean-Baptiste n'avait pas fait la correction fraternelle, il n'aurait pas été décapité. Il aurait pu le faire par crainte, en disant « ça va aller loin ». Eh bien, Jean-Baptiste a fait la correction fraternelle. Malgré Hérodiade, hein, vous voyez bien le passage qui est si extraordinaire dans l'Écriture. Hein, parce que c'est vrai, c'est un des évangiles les plus extraordinaires, moi je trouve. Quand on voit que le pauvre Jean-Baptiste en prison parce qu'il a dit la vérité, il était témoin, donc il a une correction fraternelle. Une correction fraternelle qu'il a faite. Et Jean-Baptiste n'a pas eu peur. Tandis que la seconde est un péché mortel, donc cette omission, c'est celle qui est causée par la crainte des jugements des hommes, des tours tourment et de la mort de la chair. Vous avez peur de mourir. La troisième n'est qu'un péché véniel. C'est celle où les mêmes motifs ne font que retarder un peu trop celui à qui il appartient de faire la correction. Mais qui la ferait s'il jugeait l'occasion vraiment propice ? Car la charité fraternelle est le sentiment qui prédomine en lui. C'est de cette façon que de saints personnages négligent parfois la correction fraternelle. Très délicat, vous voyez, c'est une question de jugement prudentiel. Est-il opportun de la faire maintenant ? On sait qu'on doit la faire, mais est-il opportun de la faire maintenant ? Alors, si on tarde un tout petit peu trop, par lâcheté, par faiblesse, c'est jamais drôle de faire la correction fraternelle. Hein ? C'est jamais drôle. Alors, on se dit quelquefois, est-ce que c'est utile maintenant ? Tu ne voudrais pas mieux attendre un peu ? Alors, on attend indéfiniment. Et plus on attend, plus c'est difficile de le faire. Alors on peut s'enferrer un petit peu, vous voyez. C'est délicat. Alors ça dépend beaucoup des tempéraments. Hein. Il y a des gens qui foncent, alors qu'ils font beaucoup de mal en fonçant. Parce qu'ils écrasent le petit roseau fragile. Alors il écrase. D'autres au contraire qui attendent. C'est très délicat, hein. Ça c'est une question. C'est pour ça qu'on ne peut jamais juger de l'extérieur. Hein. Vous voyez donc, l'omission peut être méritoire, elle peut être un péché véniel, elle peut être un péché mortel. Donc si le même acte d'omission de charité fraternelle, vu de l'extérieur, on dira, ah, il est faible, il n'ose pas, il devrait le faire. Celui qui est dedans et qui voit la complexité, peut-on, vis-à-vis de quelqu'un qui n'en peut plus, le charger encore. C'est très très délicat ça. Ce sont ces problèmes de conscience qui sont très difficiles et qu'on ne peut pas juger de l'extérieur. Vous voyez, et c'est ça qui est intéressant, que saint Thomas montre que le même acte d'omission peut être méritoire, peut être péché véniel, peut être péché mortel. Trois motifs différents. Alors, vous ne pouvez pas le juger de l'intérieur, vous ne pouvez pas juger de l'extérieur le motif. Ça vous échappe, il faut sonder le cœur. C'est pour ça que quand on est en face de ça, on ne doit pas juger. Parce qu'autrement, on risquerait de l'extérieur, on ne doit pas juger. Mais on peut quelquefois faire la correction fraternelle de quelqu'un qui ne fait pas la correction fraternelle. Hein, vous voyez bien. Alors vous êtes au carré à ce moment-là. Vous voyez quelqu'un. En regardant la situation, vous dites, oh, il faudrait qu'il agisse. Et vous, vous jugez qu'il devrait agir. Donc vous allez faire la correction fraternelle de son manque d'action, de son manque d'intervention. Et alors ceci, ça peut aller indéfiniment, vous voyez, ça peut remonter assez loin. Alors, dernière petite objection. Quatrième objection, si la correction fraternelle était d'obligation, elle serait une espèce de dette. Mais le débiteur ne doit pas attendre qu'il rencontre son créancier. Il est obligé d'aller le trouver. Mais ici, comment faire avec le si grand nombre de pécheurs ? Et faudrait-il que les religieux quittent leur cloître pour courir après ? Allez, faites la correction fraternelle à Mitterrand. Hein, allez-y. Faites la correction fraternelle à tel ou tel ministre. Allez-y. Faites la correction fraternelle à d'autres autorités. N'est-ce pas ? Allez-y. Alors, est-ce que les religieux doivent quitter leur couvent pour aller faire cette correction fraternelle ? Cela, réponse de saint Thomas, cela est vrai quand il s'agit d'une dette envers une personne déterminée et désignée. Celui qui doit de l'argent est obligé, au temps fixé, de rechercher son créancier. Celui qui a la charge spirituelle de quelqu'un est obligé de le rechercher pour le corriger de sa faute. Mais s'il s'agit du prochain en général, au temporel comme au spirituel, on n'est plus obligé d'aller chercher à qui faire du bien. Il suffit d'en faire à ceux qui se présentent et qu'on peut tenir comme désignés par la Providence, dit saint Augustin. Il dit encore, le Seigneur nous avertit d'être attentifs aux fautes les uns des autres, non pas dans le dessein de critiquer, mais avec le désir de corriger. Faire le contraire, ce serait espionner la conduite du prochain, ce qui est défendu. Sauf si on vous a désigné comme ange gardien. Dans certaines congrégations, ça existe. Alors, ne tends pas des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Là, la charité des vrais devient impossible hein, si on devient le renard du voisin. On l'épie au bon moment. On se trouve là pour les pieds. Ne tends pas des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Il est bien évident aussi que les religieux n'ont pas à quitter leur cloître pour remplir ce devoir de correction. Donc tranquillisez-vous. Non, vous n'avez pas un devoir de corriger l'humanité, le peuple de Dieu. Ce n'est pas votre devoir. Même si vous savez qu'il y a telle ou telle chose, ce n'est pas votre devoir. Votre devoir, c'est de prier pour eux et de les porter. Oui. Mais si on a charge d'âme, alors là, c'est délicat. On doit corriger quelqu'un dont on est responsable en face de Dieu. Mais quand on sait que la correction ne porte aucun fruit, alors c'est là où le problème se pose. On doit attendre le temps opportun. Alors, article 3, la correction fraternelle n'appartient-elle qu'au supérieur? Donc, vous voyez, c'est toujours montrer la complexité. Hein, c'est ça que saint Thomas souligne. C'est une aumône très difficile à faire. Parce que c'est une aumône spirituelle très difficile à faire. Parce qu'elle est pour le salut de celui qui doit recevoir cette aumône. L'aumône temporelle est beaucoup plus facile à faire. Tandis que l'aumône spirituelle est beaucoup plus difficile à faire. Cette aumône spirituelle qui est la correction fraternelle. Donc, saint Jérôme, première objection. Saint Jérôme semble bien la réserver aux prêtres, c'est-à-dire aux supérieurs, à ceux qui ont charge d'âme. Que les prêtres s'appliquent à remplir ce précepte évangélique si ton frère a péché contre toi. Alors, comme les laïcs aujourd'hui ont pris beaucoup plus d'importance qu'avant, que du temps de saint Jérôme, alors la charité, la correction fraternelle va s'étendre jusqu'aux laïcs. Et saint Thomas est précurseur. Alors, réponse de saint Thomas. Aussi bien les prêtres que les autres fidèles doivent avoir le plus grand souci de ceux qui périssent, afin que ceux-ci soient ou bien corrigés de leurs péchés, ou bien s'ils s'avèrent incorrigibles, retranchés de l'Église. On a dit qu'il y a deux espèces de correction. La première est un acte de charité, dont le but spécifique est l'amendement d'un frère tombé dans quelque faute. Dont le but spécifique est l'amendement d'un frère tombé dans quelque faute et dont le moyen est une simple admonition. Cette correction appartient à quiconque a la charité, qu'il soit supérieur ou inférieur. La seconde correction, est un acte de justice qui a en vue le bien public, le bien commun, et qui le procure non seulement en admonition, en admonestant le coupable, mais parfois aussi en le punissant, afin d'inspirer aux autres une crainte salutaire. Cette correction appartient aux seuls supérieurs qui peuvent, à la puissance de l'admonition, ajouter celle de la punition dans le but de corriger ceux dont ils sont chargés. Donc c'est très très net. Vous voyez, c'est tout de suite, hein, c'est ça qui est intéressant dans saint Thomas, c'est que la première distinction qu'il donne va se retrouver partout, avec des modalités différentes. Deux espèces de correction. Une correction au nom de la charité, une correction au nom de la justice. Eh bien, toutes les confusions viennent de là, parce qu'on ne voit pas la correction au nom de la charité, au nom de la justice. Alors, c'est très important, vous voyez, pour la rectification intérieure. Je crois que ceux qui font des corrections fraternelles intempestives confondent les deux. Subitement, ils sont pris avec un zèle du bien commun comme s'ils étaient chargés du bien commun. Ils oublient que non, ça c'est le supérieur qui est chargé du bien commun, qui a la grâce de voir. Alors ils sont pris de ce zèle intempestif. Vous voyez, réfléchissez un tout petit peu au point de vue de la conscience. Hein. Quand vous êtes pris par un zèle intempestif de corriger tous vos frères ou toutes vos sœurs, hein, à la manière de Samson. Vraiment, vraiment, c'est suffisant, vraiment, c'est effrayant. Il faut corriger ça. Un zèle intempestif. Et au fond, à ce moment-là, vous vous faites... Vous voyez, vous oubliez que peut-être, il faut distinguer le zèle de la charité, le zèle de la justice. Le zèle de la charité, oui. Le zèle de la justice, avez-vous un mandat ? Vous n'avez pas de mandat, mais taisez-vous. Et puis c'est tout. Et comprenez que c'est... Alors si vous voulez voir le supérieur, allez lui dire. Mais c'est pas vous à le faire. Parce qu'en faisant ça, vous péchez par orgueil, parce que vous prenez la place du supérieur. Vous croyez que vous êtes supérieur parce que vous êtes. Non. Vous n'avez pas à être supérieur, parce que vous n'avez pas d'autorité. Par rapport au bien commun. Alors, il faut la justice, il faut à ce moment-là accepter de garder le silence. Jésus a gardé le silence de 12 ans à 30 ans. Il a parlé quand il était responsable de cette nouvelle petite communauté, les apôtres. Et que de fait, il faisait œuvre de chef religieux. Ce qui montre que la correction que Jésus a faite au temple était une correction au nom de la justice et non pas au nom de la charité. Ce que je crois. Moi, j'ai toujours interprété comme ça. Et je crois que c'est ce que dit saint Thomas ici nous permet de voir que c'est au nom de la justice. C'était une correction publique dans le temple. Donc, c'est pas une correction privée. La charité fraternelle, la correction de la charité fraternelle est toujours privée. C'est de frère à frère, de sœur à sœur. Tandis que quand on fait une correction publique comme Jésus le fait, ah, ça c'est au nom de la justice. C'était que la justice n'était pas respectée. La justice à l'égard de Dieu. On ne respectait pas suffisamment ce que représentait le temple qui était la maison de Dieu et qui n'était pas une maison de trafic. Et donc on confondait le point de vue du commerce et le point de vue sacré. On confondait le profane et le sacré. Et qu'il y avait cette grosse confusion qui se faisait dans le temple, et il fallait donc, au nom de la justice, respecter le sacré. Et Jésus ne pouvait le faire que dans la mesure où il avait autorité. Une autorité qui venait du Père, une autorité pour fonder une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Alors, voyons tout de suite la réponse aux objections. Donc la première réponse, c'est saint Jérôme. Seuls les prêtres peuvent exercer la correction fraternelle. Parce qu'ils ont autorité, vous voyez bien. Parce qu'ils ont autorité. Alors, cette correction, parce qu'on a autorité, relève de la correction de justice. Et non pas de charité. Alors, réponse de saint Thomas, même dans la correction fraternelle, qui appartient à tous. Les supérieurs ont une plus grande part de responsabilité. De même qu'on doit distribuer les biens temporels d'abord à ceux dont on a la charge. De même, les supérieurs dans l'ordre spirituel doivent distribuer les biens de l'âme, les aumônes, hein, les biens de l'âme, d'abord à ceux qui leur sont confiés. Donc, les instruire, les corriger, etc. Saint Jérôme ne veut donc pas dire que la correction fraternelle appartient au seul prêtre, mais qu'il les regarde spécialement. Il y a un ordo caritatis. C'est tout simplement cet ordo caritatis que saint Thomas maintient toujours et qu'il rappelle ici. Alors, la seconde objection, de même que l'aumône matérielle doit être faite par ceux qui sont supérieurs dans l'ordre temporel, c'est-à-dire par les plus riches, de même la correction fraternelle, qui est une espèce d'aumône spirituelle, doit être faite par ceux qui sont supérieurs dans l'ordre spirituel, c'est-à-dire par ceux qui exercent autorité. Réponse. De même que celui qui a de quoi faire des aumônes matérielles est riche sous ce rapport, de même celui qui est doué d'un bon jugement, qui le rend capable de corriger la faute de son prochain, jouit par là même d'une certaine supériorité. Ça, c'est très important, mais c'est difficile à soi-même de voir si on a un bon jugement. Hein. C'est pas si commode. Alors, moi j'ai un bon jugement, donc je vais être celui qui va être le correcteur officiel de la communauté, puisque les autres, vraiment. Attention, ne pas s'ériger trop vite ce droit d'avoir un bon jugement. Oui, surtout quand il s'agit d'une communauté. Parce que juger de l'extérieur une communauté, c'est très très délicat. On ne peut juger que de l'intérieur. Quand il s'agit d'une communauté spirituelle, d'une communauté religieuse, on peut juger que de l'intérieur. De l'extérieur, on juge toujours mal. Parce qu'on ne voit pas le bien commun de la communauté. Or, on a le droit de corriger au nom du bien commun, au point de vue de la justice. Alors, au point de vue fraternel, on doit juger aussi par rapport au bien commun. Parce que c'est par rapport à tel ou tel acte. Ce n'est pas par rapport aux intentions profondes, ça, Dieu seul. Hein? Dieu seul. Mon frère, tu es beaucoup trop orgueilleux. Beaucoup trop orgueilleux. Est-ce que vous corrigez sur l'orgueil? Non, parce qu'on est tous trop orgueilleux. Donc ce n'est pas une correction fraternelle. Donc vous n'avez pas le droit de dire, mon frère, tu es beaucoup trop orgueilleux. Non, non. On doit corriger par rapport à un acte. Cet acte que tu as fait là, manifeste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention. Mais je ne pouvais pas dire à tel ou tel, tu es beaucoup trop orgueilleux. On l'est tous. Alors on aurait le droit de dire, et toi? C'est très important. La correction fraternelle se fait toujours par rapport à un acte extérieur. Hein? Pas par rapport... Par rapport à cet acte intérieur, on peut remonter aux intentions. Oui, la correction fraternelle peut permettre. Mais il faut le faire avec beaucoup d'attention. Alors, troisième objection. On corrige pour rendre meilleur. Mais dans la nature, ce sont les êtres supérieurs qui agissent sur les inférieurs. Et de même dans l'ordre moral. Qui imite celui de la nature, de l'ordre moral, qui imite celui de la nature? Il appartient au seul supérieur de corriger leur inférieur. Vous voyez, c'est le point de vue hiérarchique, ça. Alors, est-ce que la charité, la correction fraternelle relève de la hiérarchie? Alors, réponse de saint Thomas. De même, dans l'ordre naturel, les êtres exercent des actions mutuelles, pouvant être à la fois sous divers rapports supérieurs et inférieurs, en acte et en puissance, vis-à-vis les uns des autres. De même ici, celui qui voit clairement la vérité, là où un autre s'est fourvoyé, peut le corriger, sans être pour autant et absolument son supérieur. Hein, c'est très intéressant. Et quelquefois, les supérieurs pourront demander l'aide d'un inférieur. Je me souviens, c'était au noviciat, ça. Ça m'avait étonné, j'avais essayé de comprendre un peu. Et au fond, le père maître, je ne donne pas tous les détails, m'avait demandé d'agir. Disant, moi, j'aime mieux pas agir, je vous demande d'agir. Alors, j'avais eu envie de dire, mais c'est votre métier, hein, c'est pas le mien. Et puis, comme j'étais soumis, je m'étais tué, j'étais exécuté, mais sûrement s'il me demande ça, il a raison. Et au fond, progressivement, on voit qu'en effet, le supérieur peut très bien, pour une efficacité plus grande, demander à un inférieur d'agir là où lui sait très bien que ce sera moins efficace. Mais au nom de la charité. Parce qu'au nom de la charité, la hiérarchie est différente. Hein. Les codes naturalité sont différentes. Alors on comprend très bien ce point de vue-là. On peut être un instrument que Dieu se sert, parce qu'on est plus proche. Alors Dieu demande ça. Et c'est quelquefois une plus grande miséricorde d'agir par l'instrument de quelqu'un qui est en plus grande comme naturalité. Et au fond, c'est ça que saint Thomas souligne ici. Il y a une hiérarchie visible, il y a une hiérarchie invisible. La hiérarchie invisible, c'est dans l'ordre de la charité. Or, comme la correction fraternelle relève de la charité, on peut se servir de cette hiérarchie invisible. Vous voyez, qu'on connaît plus ou moins, qu'on doute. On se dit, il y a quelque chose là qu'on peut faire. Et c'est ordinairement du reste comme ça. On aime mieux être corrigé fraternellement par quelqu'un qu'on estime profondément. Oui, c'est un saint. Alors on reçoit beaucoup plus de quelqu'un qui est plus proche, qu'on estime plus, que de quelqu'un qu'on estime moins. Alors, vous voyez, là, il y a tout un jeu dans la charité fraternelle. C'est pour ça que je dis, c'est très... La correction fraternelle, c'est extrêmement complexe. C'est très, très beau. Ça, c'est quelque chose qui est admirable, parce que ça montre la complexité de l'exercice de la charité fraternelle, qui n'est pas simple. Article 4, étant obligé de corriger son supérieur. Alors, ça, c'est très important. C'est très, très important. C'est capital, hein. Il semble plutôt que ce soit défendu. Il est écrit dans l'Exode, quiconque, bête ou homme, touchera la montagne sera mis à mort. Ça, c'est merveilleux. On peut penser à ce texte. Quiconque, bête ou homme, touchera la montagne sera mis à mort. Il est raconté qu'Osa fut frappé par Dieu pour avoir touché l'arche. Or, ce sont là deux symboles de l'autorité. C'est la bête intangible. Vous voyez, c'est le lieu où vous ne pouvez pas toucher la montagne, pas toucher l'arche. C'est le symbole de l'autorité. Là, si vous les touchez, vous êtes foudroyé. Correction fraternelle au supérieur, vous êtes foudroyé. Ce serait merveilleux, ça, hein. Si ça arrivait de temps en temps, ce serait de bons exemples. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Où les supérieurs avaient besoin d'être entourés de la nuée. Tandis que dans le Nouveau Testament, les supérieurs ne sont pas entourés de la nuée. Alors, réponse de saint Thomas. Saint Augustin dit dans sa règle, N'ayez pas pitié seulement de vous-même, mais encore de celui qui court un péril d'autant plus grand qu'il occupe parmi vous un rang plus élevé, c'est-à-dire qui est votre supérieur. Or, reprendre fraternellement, c'est avoir pitié, c'est exercer la miséricorde. Et c'est ce que l'on doit faire même à l'égard des supérieurs. On doit les aimer tellement qu'on doit avoir cette pitié vis-à-vis d'eux quand on voit qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. La correction est un acte de justice et qui use du droit de punir. N'appartient pas aux inférieurs vis-à-vis de leurs supérieurs. Ça, c'est très important. Vous voyez, donc tout de suite, la purification de l'intention. La correction qui est un acte de justice. Donc nous retrouvons la même distinction. Qui use du droit de punir n'appartient pas aux inférieurs vis-à-vis de leurs supérieurs. Mais celle qui est un acte de charité appartient à chacun par rapport à tous ceux qu'il doit aimer et chez lesquels il voit quelque chose à reprendre. En effet, l'acte issu d'un habitus ou d'une puissance s'étend à tout ce que contient l'objet de l'un ou de l'autre, comme la vision, par exemple, à tout le contenu de l'objet de la vue, à tout le visible. Mais comme un acte de vertu doit être mesuré par toutes les circonstances qu'il faut qu'il respecte, celui par lequel un inférieur reprend son supérieur doit donc l'être aussi. La correction ne sera ni insolente, alors retenez bien ça, hein, ni insolente, ni dure, mais douce et respectueuse. Inspirée par la parole de saint Paul, ne reprends pas avec rudesse un vieillard. Si vos supérieurs ont un vieillard, mais avertis-le comme un père. C'est très beau, ça. Du fait même qu'il est notre supérieur, il est un vieillard. C'est pour cette raison que Denis reproche aux moines